France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Chez les 9-10 ans, il y a des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Parmi ma classe, je pense avoir seulement 20 élèves sur 48 qui savent lire.
On ne peut pas faire des progrès en éducation sans pouvoir trouver un emploi et des formations professionnelles. Ils devraient en faire une priorité. Le futur, c'est la jeunesse.
La société sud-africaine va continuer à décliner à moins de consacrer le temps et l'énergie nécessaires au secteur de l'éducation.
Il y a 30 ans, le 27 avril 1994, tous les Sud-Africains, blancs, noirs, indiens, métis, étaient appelés aux urnes pour la première fois. Le régime de l'apartheid, dirigé par la minorité blanche afrikaner depuis 1948, vivait ses dernières heures. Et Nelson Mandela allait devenir le premier président noir d'Afrique du Sud. Son parti, le Congrès national africain, avait à cœur de réparer les injustices de ce régime ségrégationniste. Mais 30 ans plus tard, le pays reste, selon la Banque mondiale, le plus inégalitaire au monde. Après avoir gravi une haute colline, ce que l'on découvre, c'est qu'il y a encore beaucoup d'autres collines à gravir, reconnaît le président Cyril Ramaphosa, qui tente de convaincre que l'ANC doit rester au pouvoir pour poursuivre sa tâche. L'ANC, dont l'image a été très écornée par les affaires de corruption. Le pays fait aussi face à un taux de criminalité très élevé et la croissance de la première économie d'Afrique est aujourd'hui atone, tandis que le chômage frôle les 32%. Et concernant l'éducation, l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser, déclarait Nelson Mandela, quel est le bilan de l'ANC ? S'il se vante d'avoir réussi à universaliser l'accès à l'école, c'est la qualité de l'école publique qui fait aujourd'hui défaut. Classes surchargées, toilettes indignes, violences, décrochage scolaire et illettrisme, l'école publique fait régulièrement parler d'elle pour de mauvaises raisons. L'Afrique du Sud en échec scolaire, c'est un reportage signé Romain Chanson. Bonjour Romain.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Afrique du Sud. Et pour cet état des lieux du système éducatif sud-africain, vous allez nous emmener dans la province du Cap-Oriental.
Oui, et c'est pas un hasard puisque la province du Cap-Oriental, on la surnomme la province des légendes. C'est elle qui a vu naître les plus grands dirigeants de l'ANC. Oliver Tambo, Walter Sisulu et puis bien sûr Nelson Mandela qui est né dans cette province et qui est enterré. Mais c'est aussi la région la plus pauvre, la plus en difficulté du pays. Elle est le miroir, disons, grossissant des problèmes de l'Afrique du Sud. Et parmi ces problèmes est bien sûr l'éducation. C'est le thème de ce soir, avec une statistique assez flagrante. Seuls 27% des enfants de la province sont allés au bout de leur étude secondaire. Le président, l'actuel président sud-africain, Cyril Ramaphosa, il était d'ailleurs en campagne électorale dans la province fin mars. Lui, il y est allé pour vanter quoi les progrès réalisés par son parti, l'ANC. L'Afrique du Sud a changé, ce n'est plus la même qu'en 1994, ce n'est plus la même surtout que sous l'apartheid. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de vérifier à travers le thème de l'éducation et à travers ce reportage.
Et c'est la politiste Jeanne Bouya qui réagira à votre reportage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse post-doctorante à l'Université de Johannesburg au Center for Education, Rights and Transformation et vous êtes également docteur associé à Sciences Po Paris, au CERI, le Centre de Recherche Internationale. Avant de vous donner la parole, Jeanne Bouya, nous allons ensemble à l'école avec Romain Chanson.
Bonjour à tous. Quel jour sommes-nous ? Le 13, c'est bien ça ? Le 13 de quel mois ? Le 13 mars 2024.
C'est l'heure du cours d'anglais dans cette école primaire du township d'Ilingué, dans la province du Cap-Oriental.
Le mot du jour, c'est pi. Pittoresque. Et ça veut dire ce qui forme une jolie scène.
P
Pittoresque, l'adjectif ne convient pas au township, un quartier souvent pauvre, créé sous le régime d'apartheid pour éloigner les populations non blanches des centres-villes. Les maisons y sont petites, standardisées, parfois en tôle, et les routes sont grêlées de nids de poules. L'école est charmante, cela dit, elle est composée de deux grands bâtiments rectangulaires, avec au centre une cour végétalisée. Mais cette école, publique, gratuite, est petite, trop petite. Les classes devant lesquelles Numbulelo Valley donne cours sont surchargées.
Quand j'enseigne aux 11-12 ans, la salle de classe est remplie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger avec chacun des élèves. Même si vous avez bien préparé votre cours, vous arriverez à enseigner l'équivalent de 5 minutes pendant l'heure dont vous disposez. Le thème sur lequel nous travaillons en ce moment, par exemple, est censé être étudié en troisième semaine. Pourtant, nous travaillons toujours dessus à la neuvième semaine, donc c'est très difficile d'avancer. Mais on va s'en sortir.
Ce matin, ils sont 48 élèves à suivre le cours d'anglais contre le double dans certaines classes. Les enfants, des filles, des garçons réunis sont tous habillés d'un uniforme composé d'un pull rouge sur une chemise blanche. Ils se lèvent pour l'exercice de prononciation. Ces élèves ont 9 et 10 ans, c'est l'âge où ils délaissent l'apprentissage en Xhosa, l'une des 11 langues officielles d'Afrique du Sud, pour se concentrer sur l'anglais. C'est aussi l'âge où leur niveau de compétence en lecture est testé par le Programme international de recherche en lecture scolaire. La dernière enquête révèle une statistique inquiétante et en augmentation. En CM1, 81% des Sud-Africains ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ce qui fait dire aux associations d'aide à la lecture que l'Afrique du Sud traverse une crise de l'illettrisme, un défi supplémentaire auquel est confronté Numbulelo Valley.
Ils connaissent les mots, mais ils n'arrivent pas à expliquer l'histoire. On leur demande d'illustrer ce qu'ils ont lu, mais pour eux, c'est assez compliqué. Il y a un fossé à combler entre la classe des 8-9 ans et celle des 9-10 ans. Parce qu'ils commencent par tout apprendre en langue Xhosa, et tout d'un coup, ils doivent changer pour tout apprendre en anglais. Donc c'est un peu difficile. S'ils s'en sortent bien en Xhosa, ils sont ensuite en difficulté en anglais. Pourtant, c'est nécessaire pour toutes les matières. C'est pas une classe facile, les 9-10 ans. Chez les 9-10 ans, il y a des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Parmi ma classe, je pense avoir seulement 20 élèves sur 48 qui savent lire. J'en veux vraiment au gouvernement. Il n'y a aucune école pour l'éducation inclusive. On n'a pas de professeurs qui pourraient s'adresser à tout type de niveau. Il nous faudrait des éducateurs, des psychologues qui travaillent ensemble pour s'occuper des élèves. Ici, on est dans un quartier pauvre. Les parents boivent ou font toutes sortes de choses et ça déteint sur les enfants qui ont des problèmes. On a besoin d'aide. Il faut faire quelque chose.
L'enseignante adresse ce message alors qu'une cargaison de livres est déchargée d'un pick-up. C'est Rodney Msomi qui fait le livreur. Il coordonne le projet d'aide à la lecture Yizani Sifunde, qui signifie « Mettons-nous à lire ».
Ces livres devraient être adaptés pour eux. Celui-ci, par exemple, il a beaucoup de textes et il est écrit en anglais. Il s'intitule « La mer ». Mais je vous recommande le journal de Nali Bali pour les 9-10 ans.
Ah oui, on travaille dessus en ce moment. Ils doivent apprendre à reconnaître un journal, le titre du journal en gras, le chapeau et tout le reste. Comme on n'a pas encore de bibliothèque, on va les mettre à disposition dans les salles de classe. Et quand les enfants auront terminé leurs travaux, ils pourront emprunter un livre et lire, et ne pas perturber la classe.
Les livres sont une ressource rare, les bibliothèques encore davantage. Le constat vaut pour les écoles et pour les crèches que Rodney Msoumi approvisionne en albums pour enfants. Il nous propose de le suivre dans sa tournée du township. Le projet Izani Sifondé regroupe plusieurs associations d'aide à la lecture qui ont uni leurs forces. L'un des volets du projet est l'édition d'albums pour enfants, des histoires locales, sud-africaines, en langue Xhosa. Ces livres sont donnés gratuitement pour alimenter les bibliothèques des crèches, mais aussi celles des familles. Des ateliers sont aussi proposés aux parents pour les sensibiliser au rôle qu'ils peuvent jouer à la maison dans les apprentissages fondamentaux de leurs jeunes enfants. À la crèche, les histoires sont déclinées en jeux de rôle, en chansons pour les petits qui sont ici âgés de 4 à 5 ans. Les associations veulent s'attaquer au problème de l'illettrisme par la racine.
Ça, c'est le livre préféré des enfants.
Donc le livre qu'on a sous les yeux, c'est écrit en gros caractères avec des images, des dessins. Et ça raconte la vie de la ferme, un petit garçon qui va s'occuper d'une vache, qui va la traire, qui va lui donner à boire avec son père. Donc c'est vraiment leur histoire pour qu'ils puissent s'identifier et mieux comprendre la nature des mots qui sont écrits sur le livre.
Oui, les histoires ont un sens pour eux. Les livres ne font pas référence à des cultures étrangères, mais bien à celles des enfants. Le défi dans ces communautés, c'est de bien faire apprendre le Xhosa. Cette langue est parlée dans la région, mais elle n'est pas parlée parfaitement. Par exemple, les gens n'utilisent plus le mot en Xhosa pour évoquer une carotte. Ils préfèrent utiliser le mot anglais. Donc en grandissant, les enfants ont du mal à comprendre quel est le mot correct à utiliser en Xhosa. Le langage parlé est différent du langage utilisé dans ces histoires. C'est pourquoi on fait en sorte que les enfants possèdent le plus de livres possible et qu'ils écoutent le plus d'histoires, car le langage utilisé dans les livres est le bon.
J'ai une carotte dans la main. Comment on dit carotte en ici que ça?
Capetou.
Ils rigolent quand ils entendent de nouveaux mots pour la première fois, quand bien même ils sont dans leur langue. Ça les amuse, car ces mots sont utilisés de manière pratique. Cette comptine est aussi une application pratique. Quand il mentionne les deux oreilles, il se touche les oreilles. Les deux yeux, en se touchant les yeux, les jambes ou les pieds pour marcher. Ça aide les enfants à comprendre comment on utilise les parties de son corps. On fait de notre mieux pour que les enfants comprennent le Xhosa dès le plus jeune âge. Je ne veux pas dire du mal du système éducatif, mais à l'école primaire, les professeurs ont beaucoup trop de choses à faire, de l'administratif, des formations, des réunions. Donc ils font tout à la va-vite, car à la fin de l'année, ils doivent avoir terminé le programme. Qu'ils se pressent, ils n'ont pas le temps de s'assurer que leurs élèves comprennent mieux leur langue maternelle.
Nous écoutons Imvula, la chanson de la pluie.
Imvula, trapa trapa trapa, imanzi lokwe yam. Tapa tapa tapa.
Le programme Isani Sifunde vient de s'achever après 3 ans de mise en pratique. Une évaluation indépendante du programme révèle qu'en seulement 8 mois, la part des enfants considérés comme très en retard dans l'apprentissage de la lecture et du langage a baissé de moitié. La formation des encadrants qui ne font plus seulement de la garderie, la stimulation des petits, l'implication des parents et la mise à disposition de livres favorisent considérablement le développement des enfants. C'est la conviction de l'ONG Kululeka depuis 1989.
Je suis contente que vous ayez pu passer une tête.
Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît.
Ok, je m'appelle Marie Venter, je suis la directrice de Kululeka, une organisation à but non lucratif installée à Queenstown, dans le Cap-Oriental. Nous sommes dans l'une des régions les plus pauvres d'Afrique du Sud. Nous sommes dans un environnement très dur avec des parents, des aidants et des éducateurs qui quittent le Cap-Oriental faute d'offres d'emploi. Il y a aussi la problématique du milieu rural, qui est un milieu très étiré dont l'éloignement pose problème. On fait face à de nombreuses situations, surtout liées à la pauvreté et au milieu dans lequel nous travaillons, où il n'y a pas d'accès aux outils pédagogiques comme les livres, les jouets ou toute forme de ressources. C'est l'association WordsWorks qui est à l'origine du partenariat, je dois les saluer pour cette initiative et pour leur capacité à collaborer et à comprendre qu'en tant qu'association, on aura de meilleurs résultats si on travaille ensemble au plus haut niveau. Et c'est là d'où vient le projet Isani Sifunde, un consortium de plusieurs associations qui remplissent chacune un rôle dans le projet. Pour nous, il s'agit de former les éducateurs dans les crèches. L'association Nalibali était impliquée sur le terrain auprès des communautés avec des compteurs, des ateliers de lecture et WordWorks s'occupait du contenu et de son développement, Bookdash fournissant les ressources. L'accès à ces ressources a été l'un des aspects les plus importants du projet. Il s'agissait d'acquérir et de distribuer des livres dans les crèches et aussi de les offrir aux familles, un travail ambitieux. Je crois qu'on a donné entre 25 et 50 livres pour chaque enfant. C'est phénoménal. Certaines de ces familles ne possèdent même pas un seul livre pour enfants. Alors qu'on sait que pour jeter les bases de l'apprentissage à la lecture, il ne faut pas seulement lire, il faut aussi raconter des histoires, regarder des images, élaborer un récit autour de ces livres. Sans le genre de travail que nous essayons d'accomplir à notre niveau, la société sud-africaine va continuer à décliner à moins de consacrer le temps et l'énergie nécessaires au secteur de l'éducation. Unless we can actually put in the amount of time and energy that needs to be focused into the education space.
En Afrique du Sud, environ 40% des enfants quittent l'école avant d'obtenir leur bac. Le décrochage scolaire est directement lié à l'illettrisme qui provoque le découragement des enfants. Mais l'ONG Zero School Dropout a identifié plus de 40 facteurs qui poussent un élève à quitter l'école. Le décrochage scolaire était l'un des combats de Nelson Mandela. 4 mois seulement après être sorti de prison, en février 1990, il se rend dans un lycée de Boston aux États-Unis où il prononce ce discours.
We are Nous sommes très inquiets, que ce soit dans notre pays et ici, du très grand nombre d'élèves qui quittent l'école. C'est une situation très préoccupante. Car les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Nous savons que ce sont la pauvreté et la frustration qui poussent nos élèves à quitter l'école dès le plus jeune âge. Mais nous aimerions vous conseiller de faire tout ce que vous pouvez pour rester à l'école. Car l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser.
Nelson Mandela est né dans une famille de lignée royale. Il a bénéficié d'une bonne éducation dans les écoles des missionnaires anglais. Dans les années 1930-1940, ces missionnaires ont formé une élite noire, dont plusieurs cadres du Congrès national africain. Surtout, Nelson Mandela n'a pas connu le système éducatif dégradé imposé aux noirs un peu plus tard sous l'apartheid. Pour comprendre les défis auxquels est confronté le système éducatif 30 ans après la fin du régime ségrégationniste, il faut rappeler quelle fut sa politique. Nous sommes à Johannesburg, la capitale économique d'Afrique du Sud, où le professeur Bram Fleisch, spécialiste des questions d'éducation, nous attend dans son bureau de l'université de Wits.
Ok. It's nice and quiet today.
Sous l'apartheid, il y avait un effort délibéré pour s'assurer que les enfants reçoivent leur éducation dans les zones rurales, ce qu'on appelle les bantoustans. Le système de ségrégation ne se limitait pas à la race, il faisait en sorte que les enfants s'identifient à une langue ou à une origine ethnique. Et les écoles à la campagne manquaient sévèrement de moyens. Par exemple, dans les années 1960-1970, très peu de lycées étaient construits dans les zones rurales. Et pour les enfants, il était très difficile d'avoir accès aux écoles pour noirs dans les villes. L'objectif du système éducatif d'apartheid, connu sous le nom de l'éducation bantoue, c'était de limiter l'accès aux études supérieures pour les Noirs. Le régime d'apartheid assurait l'éducation basique, mais ensuite, il y avait peu d'opportunités pour aller au lycée ou à l'université. La donne a commencé à changer dans les années 1980-90 avec le développement des bantoustans, où des universités ont été construites pour les étudiants noirs dans les zones rurales. Mais c'était encore une manière de les empêcher d'accéder aux études supérieures dans les villes.
Est-ce que le régime voulait limiter l'éducation des Noirs pour s'assurer d'avoir une classe travailleuse ? Est-ce qu'ils avaient peur d'une classe intellectuelle noire ?
Au début du régime d'apartheid, l'idée était de confiner les Noirs aux zones rurales. Et s'ils venaient dans les zones urbaines, ils auraient seulement le droit d'exercer des métiers peu qualifiés. Dans ce cas-là, il était inutile de les former de manière poussée aux lettres ou aux calculs. Le Premier ministre avait prononcé un discours très important au Parlement où il expliquait que l'éducation des Noirs était destinée à les conforter dans leur position de bûcheron ou de porteur d'eau, soit des métiers manuels et peu qualifiés.
Quand Nelson Mandela se rend aux États-Unis en 1990, il prononce ce discours célèbre sur le décrochage scolaire. Il partage son inquiétude à quel point c'était un problème à l'époque.
Oui, c'était un problème important, en partie lié au manque de lycées dans les zones rurales pour les Noirs, et aussi parce que l'éducation était payante. Et pour de nombreux Noirs qui vivaient de peu, il était rare de faire des études secondaires ou supérieures. Après son arrivée au pouvoir en 1994, l'une des priorités du nouveau gouvernement était de lancer un programme de construction d'écoles, en particulier dans les zones rurales, et s'assurer que les enfants puissent aller à l'école, peu importe leurs moyens. Lors des premières élections libres de 1994, le système éducatif traverse une crise profonde, notamment du fait que les écoles dans les townships ruraux dans les années 1980 ont été des foyers de contestation du régime d'apartheid. Les cours étaient très perturbés et ça a continué jusqu'au début des années 1990. Donc l'une des priorités n'était pas seulement de construire des écoles et de former davantage d'enseignants, mais de stabiliser le système éducatif pour que les cours reprennent et que la situation revienne à la normale. Et ça a pris entre 10 et 15 ans. La stabilisation du système éducatif a montré des progrès depuis 30 ans, et il y a un effort pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cela dit, le gouvernement fait toujours face à de nombreux défis. Par exemple, les enfants à l'école n'ont pas le niveau qu'ils devraient avoir en lecture et en mathématiques. Mais il y a un effort pour répondre à cette lacune. Ce n'est pas propre à l'Afrique du Sud. De nombreux pays en Afrique subsaharienne ont des difficultés avec l'enseignement primaire. Mais le gouvernement sud-africain passe d'une politique de stabilisation du système et de construction d'infrastructures à la reconnaissance d'une nécessité d'améliorer l'enseignement primaire en se concentrant sur la lecture et sur le calcul dès le plus jeune âge.
Thank you. Reading from this side. Nothing from the center.
Le professeur Bram Fleisch refuse de parler d'un échec du gouvernement ANC. Ce diagnostic contraste avec l'édito du journaliste Adrien Basson, publié en février 2023 sur le site News24. Il écrivait: après 30 ans au pouvoir, le plus gros échec de l'ANC, c'est un système éducatif pauvre, sous-financé, contrôlé par les syndicats, qui condamne une génération entière d'enfants à un futur fait de chômage, de pauvreté et de souffrance.
Thank you. I think there's a hand there.
Le tableau ne pourrait pas être plus sombre. Il est évidemment contredit par la ministre de l'Éducation primaire qui s'exprime à l'issue d'un grand colloque des professionnels du secteur dans un hôtel en périphérie de Johannesburg. Angelina Motshera clôt l'événement avec satisfaction. Elle est contente de la tenue des débats, de son bilan au ministère depuis 2009 et de la politique de l'ANC, son parti, au pouvoir depuis 30 ans.
On a accompli beaucoup de choses. On a fait de l'éducation un droit, d'abord. Ça a bénéficié à de nombreux Sud-Africains qui auraient, dans le cas contraire, été exclus du système éducatif. Pour nous, à l'époque, l'éducation était un privilège. Mais avec Mandela, qui a dit que les portes de l'éducation doivent être ouvertes à tous, on a atteint un très haut niveau d'alphabétisation. 84% des gens savent lire. Donc on a développé une société très instruite ces 30 dernières années. C'est ce qu'on a réussi de mieux, faire de l'éducation un droit, la rendre attractive et accessible. 90% de nos écoles sont gratuites. On nourrit près de 9 millions d'écoliers chaque jour. On les emmène à l'école. Et puis on a considérablement amélioré la qualité de nos enseignants. Donc on a une société très éduquée et ça a permis à des enfants venant de familles pauvres de suivre des cours dont on n'avait jamais entendu parler à notre époque. Mais maintenant, on a de jeunes filles noires qui sont pilotes de ligne, qui sont ingénieurs. L'Afrique du Sud a atteint les plus hauts standards. En ce qui concerne les défis auxquels nous faisons face, quand on a généralisé l'accès à l'éducation, les écoles ont subi un raz-de-marée. Les classes sont surchargées, on a des problèmes d'infrastructure et on ne s'en sort pas. On a investi beaucoup d'argent dans les infrastructures, mais on n'arrive pas à remporter cette bataille.
Mais plusieurs ONG dénoncent une baisse continue du budget de l'éducation.
Le budget est très restreint, c'est vrai. Il l'est car il sert à faire beaucoup d'autres choses. Nourrir 9 millions d'enfants, c'est beaucoup d'argent. Offrir l'éducation à 80% des enfants, c'est de l'argent. Donner des livres gratuitement à tous les enfants aussi. Donc le budget est restreint par toutes ces mesures en faveur des pauvres que nous avons mises en place. Notre budget ne couvre pas seulement le fonctionnement des écoles, le salaire des professeurs, le matériel scolaire. Donc il est très contraint.
Vous connaissez cette mauvaise statistique qui dit que 81% des enfants en CM1 ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ce serait une crise de l'illettrisme. Qu'est-ce que vous faites pour y remédier ?
C'est une crise internationale. Ce n'est pas propre à l'Afrique du Sud.
Oui, mais l'Afrique du Sud fait moins bien.
Moins bien que qui ? Qui a la même économie ? On est comparé aux pays développés du Nord. Contrairement à ici, les enfants de vos pays développés vont à l'école très tôt, dès 3 ans. Les nôtres vont à l'école à 6 ans. On ne peut pas comparer un enfant qui a déjà 9 ans d'éducation à un autre qui n'en a que 3 et dire ensuite qu'il y a un problème d'illettrisme qui serait unique à l'Afrique du Sud. Quand vous regardez nos évaluations sur des enfants qui sont en dernière année de lycée, les résultats sont très différents par rapport au CM1, ce qui veut dire qu'en ayant passé plus de temps à l'école, ils finissent par rattraper leurs lacunes. Mais pour nous, ces études nous permettent d'identifier ce que l'on peut apprendre des pays qui sont devant nous. On reconnaît qu'on est encore loin, mais ça nous permet de mieux savoir où on en est. Ces études soulignent ce qu'on doit améliorer, comme la stimulation des très jeunes enfants, la mise à disposition de ressources pour que les enfants puissent lire beaucoup de livres. On ne se soumet pas à ces enquêtes en pensant pouvoir faire jeu égal avec la Russie ou la Finlande.
Pour finir, j'aimerais savoir où vous en êtes dans l'éradication des toilettes indignes. C'était prévu pour 2025, si mes souvenirs sont bons.
On espérait y parvenir cette année, mais on a eu des coupes budgétaires. Il reste encore plus de 500 écoles concernées. On verra ce qu'on peut faire avec les coupes budgétaires.
Le gouvernement compare toujours ses performances à l'état dans lequel il a trouvé l'Afrique du Sud lors de sa prise de pouvoir en 1994. L'éducation est donc une source de fierté, notamment les résultats du bac, qui étaient excellents cette année. Cyril Ramaphosa, le chef de l'État, a d'ailleurs félicité les bacheliers lors de son discours sur l'état de la nation le 8 février dernier.
L'une des pires injustices de l'apartheid a été la manière dont l'éducation a été utilisée comme un outil pour perpétuer les inégalités et l'exploitation de la population noire. Au cours des 30 dernières années, nous avons cherché à utiliser l'éducation comme un outil pour favoriser l'égalité et l'épanouissement de notre population. Nos résultats en matière d'éducation primaire s'améliorent régulièrement selon plusieurs évaluations. Le dernier taux de réussite au baccalauréat à 82,9% est le plus élevé jamais enregistré. Et nous félicitons les bacheliers de 2024 pour avoir obtenu cet incroyable taux d'admission.
This incredible pass rate.
Ce résultat est contesté par l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition. Il lui préfère un taux réel d'obtention du bac d'environ 55%. Ce résultat prend en compte les élèves qui ont quitté leurs études avant de pouvoir passer le bac. Les bons résultats vantés par l'ANC doivent être analysés pour comprendre la réalité de l'examen du bac.
Voilà, c'est bon, c'est lancé. On peut y aller. Oui, alors je m'appelle Magali von Blotnitz, française installée au Cap depuis 23 ans maintenant. Je travaille actuellement comme consultante en suivi et évaluation de projets spécialisés dans l'éducation. Le taux de réussite au bac, il faut quand même arriver à regarder un petit peu derrière ce taux de 82,9% pour voir la réalité des chiffres. Il y a trois choses à prendre en compte, surtout pour des auditeurs français, pour comprendre ces chiffres du bac. Le premier, effectivement, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui n'atteignent pas la terminale qu'en réalité, si on regarde le nombre de candidats qui ont passé le bac par rapport à l'ensemble d'une classe d'âge, on a atterri à un taux effectivement beaucoup plus réduit. Alors, le gouvernement estime que la proportion de jeunes qui terminent le grade 12 et qui donc passent le bac se monte à 63% d'une classe d'âge en 2022. C'est quand même un progrès net depuis 2008, hein, où le taux était en dessous de 50%, mais c'est vrai que c'est largement en dessous des 82,9% du taux qu'on met en avant en général. Un deuxième aspect, c'est qu'il y a... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des élèves qu'on ne compte pas dans ce taux. C'est-à-dire qu'il y a des... faut comprendre que les lycées sont vraiment soumis à des pressions considérables, en fait, pour maintenir et améliorer leur taux de réussite au bac tous les ans, au tel point que des chefs d'établissement ont tendance, en fait, et ont intérêt à dire à leurs élèves de terminale, ceux qui sont un peu limites, écoute, ne te présente pas aux épreuves de fin d'année, prends plutôt 6 mois de plus, inscris-toi en candidat libre en milieu d'année prochaine. Et ça, les épreuves de milieu d'année, elles sont pas du tout sous le feu des projecteurs. Donc on a des candidats libres qui s'inscrivent, parfois ils passent juste une ou plusieurs disciplines. On ne sait jamais exactement quels sont les résultats de cela. Et donc, ça permet de faire sortir ces élèves un petit peu limites des statistiques. Il y a une troisième chose, c'est ce qu'on appelle la qualité du bac. C'est-à-dire que en France, on passe son bac avec une moyenne de 10 sur 20. Hein, donc, dans le système sud-africain, on dirait 50%, donc 50% de réussite. Et après, si on obtient une moyenne de 12, 14, 16, on peut accéder à différentes mentions. Et en Afrique du Sud, là, la gradation se fait, j'ai envie de dire, dans la direction inverse. C'est-à-dire qu'une moyenne de 50% donne droit à ce qu'on appelle un bachelor's pass. Alors, bachelor's pass, potentiellement, ouvre les portes de l'université. Mais en Afrique du Sud, un élève qui n'obtient que 40% est toujours considéré comme étant reçu au bac. Un élève qui est entre 30 et 40%, lui aussi, sous certaines conditions, pourra être reçu. Donc, sur le taux de 82,9% de réussite au bac l'année dernière, on a moins de la moitié qui obtenait une moyenne de 50%. Donc là aussi, ça permet quand même de relativiser ce taux de succès au bac. Malgré tout, je pense que l'Afrique du Sud vient de loin et qu'il faut continuer à rester optimiste, il faut continuer à célébrer les progrès qui ont lieu, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Nous retournons dans la province du Cap-Oriental, à Mtata, l'ancienne capitale du Bantoustan, réservée aux Noirs sous l'apartheid. C'est dans cette région qu'est né Nelson Mandela, c'est ici qu'il est enterré. Cette ville moyenne, éloignée des grands centres, possède son université. Nous y rencontrons Enda Diladza, une étudiante de 24 ans. Elle se trouve, pour ainsi dire, au bout de la chaîne du système éducatif, prête à être diplômée et à chercher un emploi. Elle est la bénéficiaire d'un système éducatif qui a fait sa révolution depuis l'apartheid, mais sa désillusion est aussi le symbole d'une génération qui a perdu confiance.
When I hear of Nelson Mandela, I hear of someone who is well educated, because he did have his.
Quand je pense à Nelson Mandela, je pense à quelqu'un d'éduqué qui était diplômé en droit et qui travaillait pour le bien commun. Après l'apartheid, l'ANC n'a pas poursuivi la vision, les idéaux et les principes de Nelson Mandela. Aujourd'hui, l'ANC est corrompu, c'est mon opinion. Ils sont corrompus, ils laissent les gens tomber, mais ils viennent vous solliciter quand c'est l'heure des élections. Après ça, on ne les voit plus. Ce n'est pas possible que dans les écoles, les toilettes soient encore à l'extérieur du bâtiment, que les salles de cours soient surchargées. L'éducation est un droit fondamental. Un enfant ne peut pas grandir s'il ne comprend pas comment fonctionne son environnement. Si l'ANC détourne l'argent pour le dépenser dans des choses personnelles et se rend coupable de corruption, alors les gens vont rester dans le dénuement.
Et vous me disiez que vous seriez prête à accepter n'importe quel job, que vous êtes un peu désespérée.
Oui, je prendrai n'importe quel travail pour étoffer mon CV. Ça ne sert à rien d'étudier à mon niveau si ensuite je ne peux pas travailler. On ne peut pas faire des progrès en éducation sans pouvoir trouver un emploi et des formations professionnelles. Ils devraient en faire une priorité. Le futur, c'est la jeunesse. Si on galère, comment on va faire pour aider nos familles ? Car on doit d'abord travailler pour nos familles, avant nous-mêmes. On ne vient pas tous du même milieu social. Et ils savent tout ça, parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, où on partage nos points de vue, et ils ne réagissent pas vraiment. Aussi, on sait que si une offre d'emploi est publiée, on sait déjà qu'elle sera destinée à certaines personnes, et ils prendront seulement 2 ou 3 personnes parmi les candidatures spontanées. Ce genre de choses est inacceptable et j'en veux à l'ANC dans son ensemble.
Vous savez pour qui vous allez voter au mois de mai ?
Je ne voterai pas pour eux, c'est une évidence, je ne m'en cache pas.
Kusasa, sivuka, kakulili nkuku. Kusasa, kurukuruku, kurukuruku. Kani bantwana, ine, zimini, zitatu.
Les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai et pour la première fois de son histoire, le Congrès national africain risque de perdre la majorité selon différents sondages. En campagne électorale, le parti de Nelson Mandela promet donc de continuer à améliorer le système scolaire pour favoriser l'accès à l'emploi, première source d'inquiétude chez les jeunes. L'ANC veut former les jeunes aux mathématiques, à la robotique, au code, le langage informatique. C'est le futur pour les enfants des crèches du Cap-Oriental qui, pour le moment, se concentrent sur l'essentiel, apprendre la chanson du coq.
L'Afrique du Sud en échec scolaire, c'était un reportage de Romain Chanson avec Sam Bakiast à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Et Jeanne Bouya, docteur en sciences politiques, est notre invitée depuis Johannesburg. Dans son reportage, Jeanne Bouya, Romain Chanson nous a donné un aperçu de l'école publique, aperçu qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, d'autant qu'il y a de grandes disparités. Est-ce qu'on peut encore les imputer à l'héritage de l'apartheid, de même 30 ans après la fin de ce système ségrégationniste ?
Donc, je vous remercie de m'avoir invitée et de ce beau reportage de Romain Chanson. Alors, On peut imputer une partie de ces grandes inégalités du système éducatif à l'héritage à la fois de la ségrégation coloniale et d'apartheid, mais aussi aux choix particuliers qui ont été faits dans la période post-apartheid sur les formes de redistribution et de privatisation, on va dire, et de commercialisation de l'éducation. Donc, pour être assez clair, en fait, le système éducatif sud-africain, il est à la fois marqué par une division entre privé et public. Mais au sein des écoles publiques, en fait, il y a des grandes disparités et des formes de privatisation, une contribution importante de fonds privés, en fait, à la scolarisation. En fait, il y a un système de division des écoles publiques en 5 grandes catégories qui s'appelle le système des quintiles, des quintiles. Et en fait, entre le quintile 1 et 3, il n'y a pas de frais de scolarité, mais les subventions ont des niveaux différenciés. Les écoles de quintal 5 ont, elles, pas de subventions étatiques, enfin très peu de subventions étatiques, mais des frais de scolarité dans les quintals 4 et 5. Donc, pour être plus parlante, les frais de scolarité moyens, même dans les écoles publiques, en fait, s'élèvent à 1 700 € en moyenne. Donc, on a encore, en fait, les marques de la ségrégation historique sur des bases raciales, ethniques, qui aujourd'hui est sur des bases plus de classe sociale.
Donc l'objectif d'une école universelle et gratuite, on en est encore assez loin ?
Alors, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage par la ministre de l'Éducation, c'est pas 80 à 90% des écoles qui sont gratuites, mais plutôt autour des 2/3 des écoles qui ne sont pas payantes et environ 1/3 des écoles qui, de fait, sont payantes ou sous des formes semi-privées, ou sous des formes entièrement privées. Et ça se répercute également sur la qualité de l'éducation. C'est-à-dire que il y a un accès, effectivement, à l'éducation, même s'il y a des problématiques d'accès, on pourra en parler encore. Mais cette éducation, on va dire, pour les 2/3 des élèves, c'est pas une éducation de qualité. Il y a 1/3 de l'éducation qui va être plus de qualité, mais pour laquelle il va falloir payer. Et donc, on peut dire qu'il y a bien un droit à l'éducation sur le papier, mais en fait, de fait, c'est un service commercial avec une forte contribution à la fois sous la forme de frais de scolarité, mais également de levée de fonds ou de dons pour les établissements qui financent une grande partie de l'éducation également et qui expliquent voilà, ces inégalités.
Donc ça permet à ces établissements d'avoir plus de moyens, des ordinateurs, éventuellement d'offrir aussi des cours de soutien aux élèves. Est-ce que cette école privée est nettement plus performante ? Est-ce qu'il y a de très grosses différences avec l'école publique ?
Alors, si on considère ensemble du coup les établissements qui sont privés et les établissements semi-privés, donc c'est des établissements qui sont historiquement réservés, qui était historiquement réservé à la minorité blanche ou indienne sous les classifications raciales, on va dire, de l'apartheid. Effectivement, il y a des grandes inégalités qu'on voit encore à la fois dans les résultats scolaires, mais également parce que vous avez mentionné des cours de soutien et des infrastructures, mais c'est même les profs eux-mêmes qui vont être recrutés par les établissements. En fait, si on regarde le corps enseignant, il y a environ 27% du corps enseignant qui est directement recruté par des écoles, par ces financements. Donc ça accentue gravement les inégalités d'éducation.
Et les écoles publiques, elles ont du mal à recruter des enseignants suffisamment formés ?
Alors oui, c'est vrai, et c'est particulièrement vrai aussi dans ce qu'il faut rajouter à ces inégalités, on va dire, entre statut public et privé. C'est les questions territoriales et provinciales, division entre les provinces plus urbaines et plus rurales. Et voilà, le reportage de Romain Chanson sur le Eastern Cape, il est particulièrement parlant sur ces inégalités. Alors, si on regarde le Eastern Cape, par exemple, il y a un tiers des postes qui sont non pourvus dans le primaire et secondaire environ, alors que la moyenne nationale, c'est un cinquième, c'est déjà assez élevé, et c'est d'autant plus fort dans ces régions rurales.
Oui, les zones rurales sont loin d'avoir rattrapé leur retard hein, sur les zones urbaines. On peut dire qu'il n'y a encore pas assez d'établissements déjà, tout bêtement.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est une des grosses... Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler ensuite, mais un des gros chantiers, c'est la construction d'établissements. Et la ministre de l'Éducation, elle avait annoncé... elle avait prévu 5 000 constructions d'écoles, notamment des écoles secondaires dans les milieux ruraux. Et en fait, du fait de coupes budgétaires, il y a la moitié de ces constructions qui n'auront pas lieu. Alors c'est à la fois dû à des coupes budgétaires et à des formes de maladministration et de influence, on va dire, de corruption interne aux administrations éducatives, qui font qu'en fait, ces constructions n'ont pas lieu. Au final, même les fonds ne sont pas forcément dépensés.
Les fonds ne sont pas dépensés ou l'argent est détourné ?
Alors c'est les deux. dans les régions rurales, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la fois de gestion des fonds, de capacité à gérer ces fonds et à ce que les fonds soient effectivement fournis et dépensés aux fournisseurs, mais également des formes de maladministration, bien sûr d'accumulation au sein des administrations. Et notamment dans ces régions rurales, historiquement, les bantoustans.
Et dans ces zones rurales, il y a aussi une autre difficulté, puisque s'il n'y a pas d'établissement à proximité, on peut se dire qu'on peut envoyer notre enfant dans une école plus loin, sauf que là, il y a des problématiques de trajet. Le réseau de transport n'est pas à la hauteur pour compenser les inégalités.
Alors effectivement, là, c'est une des grosses questions d'accès, c'est en milieu rural. Et voilà, vous l'avez tout à fait dit, les enfants, ils vont marcher des grandes distances pour pouvoir avoir accès à un établissement et parfois qui sont dans un état particulièrement délabré ou qui n'ont pas de bibliothèque, pas de laboratoire, etc. Mais cette question du transport, en fait, elle est très marquée aussi dans les régions urbaines, en fait, parce qu'il y a une très forte ségrégation urbaine en Afrique du Sud. Et en fait, les élèves qui viennent de milieux plus populaires sont souvent en marge des zones urbaines, donc dans les townships historiques. Et dans une même famille, dans une même fratrie, on peut avoir voilà, des frères, des sœurs qui ont des bourses qui leur permettent d'aller dans les écoles historiquement blanches qui sont dans les banlieues et qui font des grands trajets en taxi. Donc ça ressemble un peu au système du busing aux États-Unis. On pourrait faire un parallèle avec ça. Ils passent énormément de temps dans les transports et ça rajoute à la fois des coûts et des difficultés en fait, dans la scolarité.
Et dans les difficultés, il y a aussi, du fait de la crise de l'énergie, toutes ces coupures électriques quotidiennes à certains endroits, ce qui fait que quand bien même on aurait le matériel informatique, ce serait assez compliqué de l'utiliser.
Oui, c'est tout à fait vrai. Puis il y a aussi, c'est à la fois une problématique d'accès au réseau électrique, au réseau, par exemple, Internet, plus largement. On sait que pendant le Covid, il y a eu un grand recours partout dans le monde, et en Afrique du Sud, c'est vrai aussi, à l'enseignement en ligne. Et en fait, seulement 9% des ménages qui ont où il y a des enfants ont accès à une connexion Internet. Donc les inégalités ont été massivement aggravées aussi dans cette période-là, en fait, entre les établissements plus dotés, avec des familles aussi où on pouvait avoir un environnement d'apprentissage, et les familles où ce n'est juste pas possible, et les profs et les écoles dans lesquelles c'est pas possible. Moi, j'ai fait un terrain, enfin, je fais mes terrains notamment à Soweto, qui est une township très connue, hein, dans le sud-est de Johannesburg. Les élèves, beaucoup venaient aussi d'habitats informels, n'avaient pas accès à l'électricité, et c'était la compétition pour pouvoir simplement brancher son portable. Donc on comprend que voilà, les problématiques plus largement d'accès à l'électricité, à Internet, dans le quotidien, sont très problématiques.
Et les difficultés que vous soulignez du fait de la crise du Covid, est-ce qu'elles ont été un peu résorbées ? Est-ce que le retard a pu être retardé ou pas vraiment ?
Alors, on a eu que récemment les premiers résultats, en fait, quantitatifs des effets du Covid, notamment sur les performances et sur le temps aussi de contact. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une rechute forte, à la fois dans les niveaux de lecture et de mathématiques, un retour des niveaux de 2010-2011. Alors qu'il y avait eu un progrès assez fort entre 2003 et 2011 sur les... Alors, on partait d'assez bas, mais on avait quand même eu un progrès assez significatif. Et là, on a eu une grosse rechute avec le Covid, et c'est dû notamment au fait que le temps de contact a été grandement imputé. Il y a environ 4 millions d'élèves du primaire qui ont eu 50% de leur scolarité perturbée. Et les plans de rattrapage sont pas du tout suffisants. Il n'y a qu'une seule province, qui est celle du Cap occidental, donc pas le Cap oriental, qui est elle, une province beaucoup plus dotée, où il y a notamment la ville de Cape Town, qui a consacré un budget pour cela, mais il n'y a pas de budget national. Et les inégalités sont d'autant plus fortes que les provinces ont un rôle important, en fait, dans le financement de l'éducation.
Alors aujourd'hui, l'ANC défend son bilan. Hein, il assure avoir fait beaucoup d'efforts en faveur de l'éducation, dépensé beaucoup d'argent. Quelles sont, à vos yeux, les réformes les plus importantes qui ont effectivement été menées ?
Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu une grosse concentration dans la période de post-apartheid, notamment à la fin des années 90 sur l'éducation. Il y a eu une batterie de réformes éducatives. Donc, il y a plein de choses qui ont été faites, notamment la question de l'unification. Alors, il faut savoir que la ségrégation et la fragmentation dans les années 90, elle est très forte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une division sur des bases raciales, il y a 4 ministères, on va dire, plus ou moins nationaux sur des bases raciales, et au sein du ministère qui était réservé aux Noirs, à l'éducation bantoue, il y avait une subdivision encore sur des bases ethniques, comme ça a été dit aussi dans le reportage, et au total, des divisions au niveau provincial. Il y a pas moins de 19 ministères de l'éducation au moment, en 1990. Donc, c'est un gros travail, c'était d'unifier ce système-là et d'en créer aussi un système plus démocratique, aussi décentralisé. Donc, c'était un gros chantier, c'était l'unification. L'autre gros chantier, c'était évidemment ces problématiques de redistribution. Alors, on peut voir le système de quintiles comme un effort de redistribution, puisqu'effectivement, il y a 60% des établissements dans lesquels on ne paye pas de frais de scolarité. Mais en fait, elle se couple à des formes de privatisation et de levée de fonds pour les classes moyennes et les établissements d'élite. Et toute une partie aussi de éducation totalement privée qui existe. Donc ça, c'est les unifier, redistribuer. Mais également, les réformes curriculaires ont été très importantes. Il y a eu 3 batteries de réformes curriculaires.
C'est-à-dire que les programmes scolaires ont été revus, c'est bien ça ?
Alors, très massivement, les programmes scolaires. En fait, l'éducation sous l'apartheid, elle est différenciée aussi sous des formes de curriculaires et de formation des enseignants, selon des bases raciales et ethniques. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas la même chose, comme ça a été dit aux Noirs, aux Coloreds, aux Indians, à se classifier blancs sous l'apartheid. Donc, il y a des efforts d'unification aussi de ça. Et il y a eu différentes tentatives, on va dire. Le ministère de l'Éducation s'est orienté vers un curriculum qui est beaucoup plus directif. Au cours des années, la dernière itération, on va dire, du curriculum, c'est le CAPS qui date de 2012, et lui, il est très orienté sur le contenu, le temps d'enseignement dédié à chaque thématique. C'est très directif. Ça paraît moins démocratique, mais c'est beaucoup plus pragmatique, on va dire, étant donné les inégalités éducatives fortes.
Les programmes scolaires sont les mêmes dans le public et dans le privé?
Alors, il y a deux grands systèmes, qui est le système CAPS et le système IEB. Donc, il y a beaucoup d'écoles privées qui font le programme IEB. Donc, il y a deux grands curriculums. Il y a également des formes de A-levels, le baccalauréat, le bac allemand qui est aussi passé par certains établissements. Donc, il y a différents curriculums, mais le curriculum majoritaire, c'est celui soutenu par le ministère d'Éducation, qui est le CAPS.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que malgré toutes les difficultés qu'on a entendues, la qualité de l'enseignement progresse ?
Alors, ça pouvait être vrai, on va dire, jusqu'au milieu des années 2000. Enfin, on va dire, entre 2000 et 2010, il y a eu des formes d'amélioration, c'est vrai. Mais en fait, depuis le milieu des années 2010, il y a eu une baisse de l'investissement dû à des politiques d'austérité dans les dépenses sociales et qui ont un impact fort dans le milieu éducatif pour plusieurs raisons, parce qu'il y a il y a une diminution de la part du budget dédié à l'éducation, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il est passé de 15% environ en 2016 à environ 13% en 2020, ça avait baissé pendant le Covid, ça a un peu augmenté à 13,8% maintenant, donc la part a baissé, mais surtout dans cette part, en fait, quand on regarde l'investissement par élève, quand on tient compte de l'inflation, de l'augmentation du nombre d'élèves, parce qu'il y a eu une augmentation de 13% des naissances entre 2003 et 2015, donc les classes il y a plus de besoins. Les estimations, c'est qu'il y a eu une baisse environ de 8 points de l'investissement par élève, rien qu'entre 2010 et 2017. Donc à ceci se rajoute la crise du Covid, donc on comprend que voilà, il y a une baisse de l'investissement qui a des effets ensuite très très concrets sur le nombre d'élèves par classe. On le voit dans le reportage, c'est des classes qui sont très surchargées. Et il y a maintenant des problématiques de placement des élèves, même dans des provinces qui sont les plus dotées, comme celle du Gauteng ou du Western, du Cap occidental. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont en hausse, celles de la qualité et de l'accès sur les années plus récentes.
Et vous parliez de l'inflation. De plus en plus de parents de la classe moyenne retirent leurs enfants du privé et les scolarisent dans le public. Donc ça renforce encore la pression sur l'école publique.
Alors oui, aussi, c'est une réalité, évidemment, avec la crise économique. Mais il faut aussi dire que les ménages s'endettent. Quand c'est possible, quand ils sont à la limite, ils s'endettent, en fait, sur les questions éducatives pour garder les enfants aussi dans des écoles privées. Mais en fait, ça reste quand même une minorité. Je veux dire, c'est environ 5% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Et il y aura peut-être une augmentation de ça jusqu'à 6-7%, mais les capacités de financement des ménages sont trop faibles pour avoir accès au privé. Donc, c'est pas la solution. C'est plutôt une question d'investissement dans le public qui est vraiment la question cruciale et sur laquelle se mobilisent les organisations comme Equal Education. C'est vraiment sur cette question du financement de se battre pour que le budget soit plus élevé.
Merci Jeanne Bouillat. L'Afrique du Sud en échec scolaire, le grand reportage de cette semaine était signé Romain Chanson. À la réalisation Sam Bakiast, à la technique Florent Bujon, au web Caroline Beneteau. Merci à Patricia Miura et Véronique Lefalère pour la documentation. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.